Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Maxime Dupuis et cette semaine pour la nouvelle année, je suis accompagné de Sean. Est-ce que tu sais qui est Sean ?
Sean le mouton.
Sean le mouton.
Alors, que je vous explique, Maxime,
non mais...
pour les moins de 40 ans qui nous écoutent, et je pense qu'il y en a quand même un certain nombre, même moins de 50 ans, Maxime en fait est la mode déjà, ça fait 12, et ensuite...
Ah non, mais c'est pas la question.
Mais si, bah si.
Ah non, c'est pas
la question. J'arbore une de ces moumoutes qu'aujourd'hui on trouve de partout dans la rue, mais Maxime il s'en remet pas, parce que lui effectivement c'est... Bah...
Non, je sais pas que je m'en remets pas, moi j'ai des polaires aussi. Mais là, c'est son nouveau truc, voilà, c'est la mode, il met, enfin la mode deux ans avant, parce que Cyril Morand en avait une dès l'année dernière.
Oui, mais non, mais de toute façon, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est avant tout parce que ça me tient chaud.
Ouais.
Voilà, je suis bien.
T'es...
je suis bien. Ça fait un peu, tu vois, bah, c'est
ouais,
douillet. Ça...
Ouais, et... bah ouais, Sean le mouton.
Ouais, Sean le mouton, mais...
Et c'est pas mal. Non, mais c'est... Oui, c'est à la mode, c'est branché, mais...
Excuse-moi d'être branché.
En gros, si on te dit que faut marcher dehors à pieds nus sans chaussettes, c'est
mais
la
non,
mode
mais j'aime bien. Ben non, mais pas du tout, mais pas du tout. Excuse-moi, non, mais... excuse-moi d'être à la mais pointe.
Déjà, t'as fait un effort. T'es pas venu avec du vert cette semaine.
C'est vrai.
Parce que là, en gros, les trois dernières émissions, le mec, ça fait 7 ans qu'il bosse devant un fond vert, et sur les deux derniers mois, il venait à chaque fois avec un habit vert.
C'est vrai, mais parce que j'adore le vert. Je sais pas d'où ça me vient, tu vois.
Je sais pas, mais en tout cas,
je sais pas du tout. Il y a vraiment, il y a rien qui me raccroche.
Soit tu cherchais les ennuis, soit.
Et alors.
Quoi?
Je crois que ça t'aurait fait un peu de bien, une petite polaire, Maxime, cet hiver. Parce que Maxime, alors, un, c'est vrai que Maxime et la mode, c'est compliqué. Mais alors, deux, il faut savoir qu'il a grandi dans le Val d'Oise. Donc,
À une époque où le réchauffement climatique était pas aussi marqué, où il y avait de la neige.
Donc, le mec, qu'est-ce qu'il a découvert ? Alors, cet hiver, qu'est-ce qu'il a découvert, Maxime ? Il m'a dit, putain, Martin, il y a un truc fou. Il m'appelle un matin, il me dit, Martin, il y a un truc fou. Il y a un truc blanc qui tombe du ciel, qu'est-ce que c'est ? Alors moi, évidemment, j'ai vécu dans les montagnes, j'ai grandi dans les montagnes, donc je sais ce que c'est que le froid.
Dans les pâturages,
Maxime a découvert la neige. Incroyable ! Incroyable, Maxime a découvert la neige.
Alors
comme,
là, je vais te dire un truc.
Non mais...
Je suis né à une époque où il y avait de la neige régulièrement. Moi.
Dans le Val d'Oise, dans les champs de patates.
Bah, évidemment. Mmh. Bah, évidemment, le réchauffement climatique, c'est pas sur les... Quand j'étais gamin, il y avait de la neige tous les hivers.
Mmh. Ouais, bon, t'as découvert la neige, t'as découvert le froid, ça m'a bien fait marrer.
Le froid, moins 35 degrés.
Mais quand on vient, comme moi, de contrées lointaines,
reculées
et inhospitalières, ça me fait penser à ces journaux télé là, qui nous font la vague de froid. Putain, mais les mecs, sortez de Paris, sortez du périph', Maxime. Mais Maxime, c'est ce Parisien, voilà,
oh ouais, super.
Pédant, et
non,
qui...
Justement.
Si, Maxime, c'est tout à fait toi.
Je te verrais bien... Jouer dans Rambo 5 ou 6 avec ta peau de mouton. Là.
Mais j'adore
ça remplacerait la tenue de Rambo, tu vois. Tu arriverais dans un village, tu serais repoussé comme lui, et tu partirais dans la forêt avec ta peau de mouton, et tu pourrais te joindre au mouton, justement, au troupeau, et c'est une belle aventure.
Allez voir les vidéos, en tout cas, parce que vous verrez que ma peau de mouton n'a rien d'exceptionnel.
Ah, mais elle est très bien, et je ne reproche rien.
Tu le dis, hein, parce que là, il est en train de checker ses mails,
non.
Maxime, tranquille, on est sur une émission, là.
Je ne
check
pas mes mails, je ferme ma boîte mail, ça fait du bruit quand les mails arrivent.
On est sur une émission sérieuse, donc de quoi on va parler d'ailleurs aujourd'hui, Maxime.
Parce qu'il serait transition.
Ouais, mais parce qu'il serait temps.
Là, attends, je retourne ton téléphone, parce que je vois les alertes et ça me perturbe.
Voilà, donc.
Alors, de quoi on va parler ?
T'es pas focus.
Non, je suis pas dedans, mais
t'es pas focus du tout.
Mais tu sais, c'est ma grande force. C'est...
On jugera à la fin de l'émission.
Le switch. Oh,
On jugera à la fin de l'émission.
Et d'ailleurs, une petite nouveauté normalement qu'on va démarrer la semaine prochaine, c'est quelqu'un qui viendra nous juger
sur la fin
de l'émission, sur la prestation de chacun. Donc lui pourra dire est-ce qu'il y a eu le switch, est-ce qu'il a fonctionné.
Ouais,
on lui donne une petite piste pour l'aider.
Là, t'es pas du tout focus pour l'instant.
Je suis focus, c'est parti. Premier sujet, on va parler de Kylian Mbappé, évidemment. Alors, j'allais dire malheureusement, heureusement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va en reparler certainement beaucoup dans les 6 mois à venir. Parce qu'à ceux qui pensent qu'il va donner sa décision dans une semaine ou deux, oubliez, parce que tant que le PSG au moins est en Ligue des Champions, il ne donnera évidemment pas cette décision. D'ailleurs, quel intérêt aurait-il à la
C'est pas le sujet, t'es pas focus, Maxime. C'est quoi le
Alors,
sujet
j'y viens au sujet. On s'est posé la question, PSG, Real Madrid, Real Madrid, PSG, et pourquoi pas Liverpool pour Mbappé ? Et si Liverpool était une meilleure solution pour lui ?
Ensuite, on parlera évidemment de la CAN, qui démarre dimanche, la CAN en Côte d'Ivoire. Et on égrènera la liste des favoris avec cette question. est-ce qu'elle peut échapper au Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde.
Et enfin, on parlera de Xavi. Xavi, le Barcelonais, l'entraîneur du FC Barcelone, qui quand même a perdu beaucoup de crédit ces derniers mois. On essaiera sinon de faire un petit bilan, au moins de parler de ce qui se passe au Barça aujourd'hui et au fond un peu du changement de statut de ce club qui, après avoir été Metz qui est une club, devient quelque chose de...
Une club.
Un outil normal, on va dire. Voilà.
Exactement. Allez, on va démarrer cette émission avec Kylian Mbappé. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties cette semaine et notamment via la presse anglaise et une presse anglaise sérieuse, l'intérêt de Liverpool pour Kylian Mbappé. Alors, il est écrit depuis plusieurs années que le destin du Parisien s'écrirait au Real Madrid. On ne parle que de ça depuis 4-5 ans et même avant, hein, puisqu'il faut se souvenir que quand il est parti de Monaco, il y avait déjà le Real dans la danse. Et si, Maxime, finalement, plutôt que d'aller en Espagne, Mbappé allait en Premier League et chez les Reds.
Alors déjà, ce serait quelque chose qui ne serait pas pour me déplaire s'il devait quitter le PSG, c'est d'aller en Angleterre. Alors déjà, par goût personnel, parce que j'adore la Premier League et je trouve que un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde, qui joue dans le meilleur championnat du monde,
ça a du sens.
Il y a quelque chose qui colle et qui fait sens. Et si Mbappé était basketteur, il ne se poserait jamais la question d'aller jouer en Liga espagnole ou en NBA, voilà, tout simplement. Alors, il n'y a peut-être pas le même écart entre les deux, oui. Mais on n'en est pas loin. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend, en fait. On a toujours entendu le PSG, Real PSG. Mais il y a toujours eu cette ombre de Liverpool parce qu'ils avaient tenté de le séduire quand il était à Monaco déjà. Souvenez-vous l'histoire de quand on raconte qu'ils avaient fait le tour de Monaco en jet pour lui parler. Et que régulièrement, le nom du club anglais revient parce que par son histoire et par son attrait aussi, c'est quand même Liverpool. Voilà. Maintenant, je serais quand même... Alors, en même temps, avec Mbappé, on est surpris depuis des années parce qu'on pense qu'il va partir chaque année et finalement, il reste. Et peut-être que... Il a Liverpool dans un coin de sa tête. Mais moi, je n'y crois pas trop parce que je pense que déjà, un, il est biberonné au Real Madrid. Ça, c'est vraiment le sens de son histoire. Il est biberonné à Cristiano Ronaldo. Ronaldo au Real Madrid. Et aussi, je pense à cette Liga. Mais cette Liga démesurée des années 2010 où les joueurs plantaient jusqu'à 50 et 46 buts, notamment la saison où Messi et Ronaldo avaient atteint ces stats. Et je pense que l'attrait du club Real Madrid, le plus grand club de l'histoire, le plus prestigieux, plus la possibilité, on va le dire, de faire des stats d'une manière plus simple qu'en Angleterre, ce qui vous amène généralement un peu plus près du Ballon d'Or, et avec le Real qui sait faire gagner des Ballons d'Or à ses joueurs, je pense que tout ça, ça pèserait très très, très, très lourd dans la balance. Et j'aimerais bien Liverpool, mais j'ai du mal à y croire.
Moi, j'ai deux arguments pour Liverpool. Le premier, c'est, comme tu l'as dit, la Premier League, et surtout la Liga, qui est quand même pas dans un temps fort. La Liga s'est construite ses plus belles années, donc années 2010-2020, avec Messi et Ronaldo, et c'était le centre de la Terre. Il faut se souvenir à quel point les Real Barcelone, et même quasiment chaque match du Barça et chaque match du Real...
Les années des mesures.
Voilà, étaient des événements. Aujourd'hui, ça a nettement baissé. Qui sont les stars de la Liga? Ce sont des stars vieillissantes, sur le déclin, pour Lewandowski... Même quelque part pour Antoine Griezmann, qui ne va pas vers ses plus belles années. Alors au Real, il y a encore du beau, hein, il y a Vinicius. Il y a...
Oui, mais ce n'est pas du premier, voilà. Tout premier choix. Ouais.
Exactement, ce n'est pas du tout premier choix. Et ce qui m'amène à ma deuxième réflexion, c'est que celui contre lequel Mbappé risque de se battre dans les prochaines années, à savoir Erling Haaland, joue lui en Premier League. Et donc, il pourrait y avoir une résurgence du duel Ronaldo-Messi à travers le duel à Liverpool de Mbappé et à Manchester City d'Erling Haaland, qui sont aujourd'hui les deux meilleurs, et depuis quand même quelques années, les deux meilleures équipes de Première Ligue. Et on pourrait avoir, voilà, c'est-à-dire que le centre de la planète football se situerait en Première Ligue avec ces deux-là. On raconterait des histoires tous les week-ends. Ce serait un feuilleton absolument extraordinaire. Et si Mbappé veut un petit peu se mettre en danger, parce qu'effectivement, comme tu le dis, bah, il y a moins de chances quand même d'être champion d'Angleterre toutes les années. Il y a moins de chances d'atteindre la barre des 30, 35, 40 buts sur une même saison. Mais il y aurait voilà, cet attrait pour la Première Ligue, pour son duel avec Erling Haaland, que je trouverais absolument exceptionnel. Ce serait une prise de risque formidable. Et il y a une chose que tu n'as pas dit, c'est qu'aussi Mbappé, il a une admiration sans borne pour le Jürgen Klopp de Liverpool. Mmh. Il aime ça. Il aime cette équipe. Et voilà, il y a aussi une histoire, il y a quelque chose. Donc voilà. Après, et là où je te rejoins à 850%, c'est qu'Mbappé, il a quand même le sens de l'histoire et les grands joueurs dans l'histoire, ils vont où? Et ben, ils vont un peu plus au Real Madrid qu'à Liverpool.
Oui, parce que vous prenez les Liverpool historiquement, équipe voilà, qui gagne la Ligue des Champions, mais qui a une équipe 5 Ligue des Champions, mais qui a été formée toujours de coller. Ah, il y a toujours des joueurs qui ressortent. On va parler d'Ian Rush, John Barnes, Beardsley, etc.
On n'est pas sur des gigas.
Mais voilà, c'est des grands collectifs. C'est l'histoire de ce club d'avoir ça. L'histoire du Real, c'est d'avoir des individualités très fortes qui font le collectif. C'est le contraire, en fait. Donc, je pense que lui, il a ça et de se dire, c'est presque un passage obligé, le Real Madrid. Voilà. Après, c'est vrai, je le redis. Moi, je pense aujourd'hui, si vous me demandiez de choisir entre tous les clubs, je pense qu'il a moins de chances d'aller à Liverpool que de rester au PSG, très largement. Parce que je ne suis pas sûr qu'il oserait, pour plein de raisons. Le duel à Land, c'est presque le dernier truc qui manque à la Première Ligue de ces années, c'est-à-dire d'avoir le duel des... Parce qu'en fait, regardez les années, comme tu l'as dit, 2010 de la Liga, Ronaldo-Messi. Finalement, à un moment, souvenez-vous aussi, la Première Ligue était presque devenue un championnat d'entraîneurs.
Oui.
Où tous les meilleurs du monde étaient là-bas, mais les tout premiers étaient évidemment en Liga. Là, il ramèterait Mbappé. Mbappé versus Haaland, ce serait complètement dingo. Même si je pense qu'on a dit qu'il marquerait moins de buts, je pense qu'il marquerait toujours parce que quand vous avez un talent comme ça, vous marquez. Mais je pense que Haaland est peut-être l'attaquant le plus adapté à tout ce qui est la Première Ligue. C'est-à-dire qu'il est fort et il va vite et il est précis. Et ça, Mbappé, il est plus fort que l'impression qu'il donne, mais ce n'est pas un cyborg comme Haaland. Il aurait les qualités, mais je pense qu'il marquerait moins. Mais en tout cas, ce serait quand même un super duel.
Mais c'est vrai qu'avant,
j'ai un gros doute.
Avant Haaland, les grandes stars européennes du football désertaient plutôt la Première Ligue. Tu prends Neymar, Messi, Ronaldo, Lewandowski. Ouais. Ah, tu prends tous les ballons d'or de ces dernières années. Voilà, il y en a. Alors Ronaldo, il est revenu à Manchester United, effectivement, et c'est là qu'il a construit le début de sa carrière. Mais enfin, le gros Ronaldo, le Ronaldo omnipotent, le Ronaldo qui dominait tout. Bah, il n'était pas en Première Ligue, mais parce que, comme tu le disais, régner en Première Ligue, c'est impossible.
Ouais. Il a réellement régné une année, sa dernière en Première Ligue. Enfin, quand il met ses...
Sa dernière avant de revenir.
Non, tu parles de qui, Ronaldo ou Cristiano?
Ouais, Cristiano.
Ah oui, bien sûr. Sa dernière avant de revenir. Là où il met les 42 buts qui battent le record de George Best, là vraiment, là, il est très fort. Mais c'est des chiffres qui paraissaient stratosphériques à l'époque, ouais. Alors que par rapport à Liga, c'était différent. Et ce qui est drôle en fait dans cette histoire, c'est que là, tu as dit tenir toutes ces stars. Et je le disais tout à l'heure à dessein, c'est la Liga de la démesure. C'est-à-dire que et c'est aujourd'hui, la Liga paye justement ses dépenses, ses dépenses, parce que pour le coup, c'était qui était au-dessus de leurs moyens. Regardez le Barça où il en est. On en parlera tout à l'heure avec Xavi. C'est aussi une conséquence de tout ça.
Mais la Liga aujourd'hui ne fait plus l'événement. Mais c'est ça le problème pour moi.
Et c'est de se dire, est-ce que moi je pense que c'est pas ce qui pèsera le plus lourd. Mais c'est vrai qu'il peut se dire aujourd'hui, je vais aller au Real. Ça c'est top, c'est fantastique. Je suis le joueur, la tête de pont du meilleur club de l'histoire. Mais je joue dans un championnat amoindri. Après. On pourrait rétorquer aussi qu'il joue aujourd'hui au PSG dans un championnat
exactement,
qui n'est pas dingue.
C'est exactement ce que j'allais dire. La Liga, ce sera toujours mieux que la Ligue 1.
Voilà. C'est pour ça que je pense que ce ne sera pas un problème. Mais je serais quand même déçu et un peu embêté de jamais le voir passer par la Première Ligue parce que, je vais tout bêtement, le meilleur joueur du monde ou quasiment doit jouer dans le meilleur championnat du monde à mes yeux.
Et alors, anecdote.
Ah.
Anecdote. Ça n'a rien à voir, hein, c'était en 2017, mais quand tu étais venu ici, Kylian Mbappé en 2017, c'était déjà Real PSG, Real PSG, ouais, Real PSG, Real PSG. Et quand il attendait son taxi, on lui avait demandé, Real ou PSG, Real PSG, évidemment, il n'avait pas vendu. Et il avait quand même dit, non, mais moi, j'oublie pas la Première Ligue. Hein. Et c'était en 2017. Alors, aujourd'hui, voilà, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, mais c'est plus du tout le même joueur. Mais je pense qu'il a quand même, il l'a quand même nécessairement dans un coin de la tête, même si, comme on l'a dit, et pour résumer tout ce qu'on a dit, c'est la troisième option quand même. Ouais. Donc, il faudrait quand même un sacré retournement de situation.
Et d'un point de vue des championnats, la Liga a évidemment éminemment plus besoin de Mbappé que la Première Ligue qui pourrait vivre sans. C'est la Ligue qui est suffisamment forte pour vivre sans. On verra. Est-ce que le rouge, lui, irait mieux au teint? Et ça se trouve,
j'aimerais bien.
Ouais. Mais en vrai,
il repousse ses classes. Hein.
La vérité, c'est qu'il va annoncer au mois de mai qu'il reste au PSG.
Ouais.
Et qui fera toute sa carrière au PSG.
Non, moi je pense qu'il va.
J'ai l'impression d'avoir cette discussion depuis deux
bien
ans.
Sûr,
mais c'est sûr, cette fois il arrive au bout. On verra. Moi je pense aussi que c'est le moment depuis deux ans.
Ça fait quatre ans qu'on dit que c'est le moment, Maxime.
Ça va être bizarre de le voir sous le maillot blanc, genre.
C'est vrai.
Enfin, si jamais il y va.
Voilà. Tout à fait.
Parce que ça se trouve il partira pas.
C'est vrai aussi.
On va passer au deuxième sujet. On va s'éloigner, de l'Europe. On va aller plus au sud et on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui commence ce week-end. Coupe d'Afrique des Nations 2024. Et une question toute simple, Martin. qui va gagner la CAN. Attention, tu es écouté et on ressortira cette vidéo dans un mois.
Alors, en préambule et pour me protéger, je vais dire que la CAN, historiquement, est la compétition la plus difficile à pronostiquer de toutes les compétitions internationales. C'est-à-dire que la Copa América, ça se joue entre 3-4 nations. L'Euro, ça se joue entre 3-4 nations. Et même le Mondial, allez, ça se joue entre 4-5 nations. La CAN, voilà, historiquement, et même s'il y a des poids lourds, mais finalement, l'Égypte la gagne très souvent, mais n'est jamais favori. Enfin, ne figure jamais au rang des favoris. Alors, il y a Cameroun, Nigeria, ces équipes-là, mais au moins en demi-finale, tu as toujours un invité surprise. Et puis c'est très souvent que, bah, on se rappelle de la Zambie d'Hervé Renard.
Ouais, en 2012.
Voilà, il n'y a pas si longtemps. C'était encore plus fou que la Grèce à l'Euro. Hein. C'était complètement dingue. Donc, voilà, c'est très difficile à pronostiquer malgré tout, et parce que c'est un exercice qu'on aime bien faire. Si on doit hiérarchiser les favoris, moi, il y en a un qui me semble ressortir, et pas seulement parce que c'est la première équipe africaine à avoir atteint les demi-finales d'une Coupe du Monde, à savoir donc le Maroc, mais aussi parce que c'est une équipe qui a gardé cette ossature, qui en plus développe des nouveaux talents. Il y a Harit qui va débarquer aussi, qui n'était pas là au Mondial. Alors que j'ai l'impression que les autres grosses nations, je pense au Sénégal, ou Sénégal un peu vieillissant, et en plus dont les trois principales stars aujourd'hui jouent en Arabie Saoudite, il y a un vrai facteur Arabie Saoudite. Il faut savoir que Mahrez, star de l'Algérie, Koulibaly, Mendy et Mané, star du Sénégal, Kessié Fofana, star de la Côte d'Ivoire. Donc là je vous cite quand même des grosses nations. Tous ces joueurs-là aujourd'hui jouent en Arabie Saoudite, et c'est très compliqué de... Et ça va être, je pense, le bon premier test pour voir ce que vaut le niveau international pour des joueurs qui ont exporté leur talent dans un championnat de seconde zone. Donc c'est difficile d'établir les favoris, mais nous, on vous a fait notre tableau à nous avec 5 étoiles le Maroc, 4 étoiles, on a mis personne pour justement marquer la différence avec les autres, 3 étoiles Sénégal, Côte d'Ivoire, Égypte. Égypte éternelle.
La culture égyptienne de la CAN.
Voilà. Deuxième étoile, Algérie. Et une étoile, Tunisie, Cameroun, Nigeria, avec la baisse de ces places fortes du foot africain.
C'est très difficile déjà. Alors déjà, si on prend les compétitions internationales en tant que telles, depuis 20 ans, je pourrais parler de l'Euro, la Grèce, etc., elles sont devenues beaucoup plus difficiles à décrypter parce que la place qui est donnée aux équipes nationales est beaucoup plus faible dans le calendrier. Les rassemblements sont plus courts, etc. Donc, ça donne des fois des Italie 2021 à l'Euro qu'on ne voit pas deux Coupes du Monde de suite. Et ça paraît des anomalies toute Italie qu'elle est. Pour la CAN, c'est un peu pareil. En plus, on en parlera sûrement après, mais le regard européen sur la CAN et la façon dont les joueurs sont libérés ou viennent, c'est une catastrophe, et ça rend encore plus le tournoi difficile à décrypter. Tu l'as dit, on a les usual suspects, tu as le Maroc, mais alors j'ai eu envie de me pencher dans mes souvenirs et de me dire, bon, est-ce qu'une équipe qui brille à la Coupe du Monde, et quand je dis brille à la Coupe du Monde, ce qui a atteint un certain niveau...
Donc c'est quoi, quart final ?
Ouais, j'ai repris à partir du Cameroun 90, ouais. Vraiment pour les équipes sur lesquelles on s'est dit, ah ouais, eux ils ont quelque chose, brille à la CAN d'après. Alors déjà, première chose, ils brillent très souvent à la CAN d'avant. Qui à l'époque, alors les dates ont changé, mais les dates avant, on avait souvent les CAN en mois de janvier-février de l'année de la Coupe du Monde. Donc ça donnait un peu un élan. Prenez le Cameroun 90, première équipe africaine à jouer un quart de finale de Coupe du Monde, passé à deux doigts de faire une demi-finale. Deux ans après, demi-finale au tir au but, battue par la Côte d'Ivoire. Ça va, mais ça ne gagne pas. Vous pourriez me parler du Nigeria 94, dont on est à peu près certain à ce moment-là qu'elle va devenir la première équipe africaine à gagner la Coupe du Monde. En 96, qu'est-ce qui se passe ? Tenant du titre, donc ils ont brillé avant la Coupe du Monde, ils ne vont pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi ? Parce qu'ils expliquent qu'ils ne sont pas assez en sécurité en Afrique du Sud.
D'accord.
Donc voilà, pour le coup, eux, c'est difficile à juger.
Sénégal ?
Le Sénégal, 2004, donc deux ans après la Coupe du Monde, un quart de finale. Le Ghana, 2012, deux ans après le quart et le crève-cœur de la main de Luis Suarez, demi-finale, sorti par la Zambie qui va gagner le tournoi. Et depuis... On aurait pu parler d'Algérie, mais c'était un huitième en 2014. Donc voilà. Donc en gros, tout ça pour dire que c'est pas une évidence, c'est pas gravé dans le marbre, parce que c'est une compétition qui est difficile à lire. Et c'est vrai que la seule petite différence, ça c'est peut-être le temps, il y a qu'un an, on va dire,
exactement,
entre la Coupe du Monde et la CAN pour le Maroc. Alors peut-être qu'ils partent avec cet avantage-là, mais c'est toujours pareil, c'est très difficile à lire. Et je pense en effet qu'on peut les mettre en favori de la CAN. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait une immense marge par rapport aux autres. Et surtout que c'est une CAN à 24.
C'est une CAN à 24. C'est très compliqué, effectivement, d'établir un favori. Moi, j'ai envie de m'arrêter aussi sur le Cameroun et le Nigeria qui naturellement, toujours font partie des favoris et qui, là, sont quand même en, en déshérence, je pense que c'est la plus mauvaise. Enfin, peut-être qu'ils la gagneront au final, hein, mais je pense que c'est une, en tout cas sur une des départs, une des équipes du Cameroun les moins séduisantes depuis un bail, hein, 20-30 ans. Voilà, Choupo-Moting n'est pas là, alors il reste Aboubakar, il reste Zombo Anguissa, mais c'est quand même pas terrible. Le Nigeria, à part Osimhen, derrière et au poste de gardien de but, c'est très compliqué. Donc la Tunisie et l'Algérie sont dans une phase de transition. Alors il n'y a plus Kazri en Tunisie, Mahrez est en Arabie Saoudite, quel est son vrai niveau? C'est pour ça que je me dis qu'aussi aujourd'hui, le Maroc, qui a su garder son ossature, il y a Bounou qui allait en Arabie Saoudite, ouais. Mais les autres, bah, voilà, Hakimi ou toutes les stars, bah, sont encore dans les championnats européens majeurs et dans des équipes majeures. C'est pour ça que je, voilà, j'ai tendance à penser que le Maroc a quand même un petit peu au-dessus des autres. La Côte d'Ivoire, le pays organisateur, c'est intéressant. Jean-Louis Gasset, qui a fait une excellente interview d'ailleurs chez nos confrères d'équipe ce matin que je vous conseille, enfin ce vendredi matin que je vous conseille. La Côte d'Ivoire, c'est un peu pareil. Que vaut Seko Fofana? Fofana qui a une histoire très compliquée avec la sélection. C'est un coup je viens pas. Ça va beaucoup dépendre de lui parce que c'est le meilleur joueur de cette équipe-là. Mais lui aussi joue en Arabie Saoudite alors même qu'il veut revenir cet hiver. La CAN, c'est souvent une compétition où il y a des interrogations au départ. Mais là encore plus parce qu'on ne sait pas ce que valent les gigastars, hormis Mohamed Salah qui lui cartonne en première ligue et qui peut porter cette équipe d'Égypte. Et je pense que personne ne veut jouer l'équipe d'Égypte parce qu'on commence à connaître les Lascars. On se dit que voilà, on ne les voit jamais arriver. À la fin, c'est toujours eux qui gagnent. Mais voilà, moi, j'ai tendance quand même à penser que le Maroc est au-dessus.
Le Maroc au-dessus. Et alors, je le redis, j'en ai un petit peu parlé juste avant de Onana.
Ah oui. Non, mais ça, c'est scandaleux, ça.
Mais ça me rend dingue. Alors, je ne sais pas à qui est la faute, en fait. Est-ce que c'est
mais explique
joueur...
peut-être, parce que les gens ne savent pas.
Onana va faire la CAN. Or, il va jouer un dernier match. Enfin, il n'a pas fait la préparation avec Manchester. Il va jouer ce week-end. Il ne joue pas le premier match du Cameroun. Il rejoint la sélection au deuxième match.
Comment c'est imaginable?
À quel moment?
Mais comment ils osent même?
Voilà. Alors, en fait, je sais. Enfin, ce qui est difficile, c'est est-ce que c'est la faute, du joueur qui le demande, l'accepte.
Manchester.
Est-ce que c'est la faute de Manchester United?
Je mettrais une petite pièce là-dessus quand même.
Manchester United. À quel moment le Cameroun accepte,
voilà,
ça?
Il y a ça aussi.
Je veux dire, à un moment, il y a des dates FIFA. Le Cameroun, enfin, je comprends qu'il faut avoir des bonnes relations avec les clubs, qu'il faut que ça se passe bien, mais à un moment, il faut quand même respecter. En fait, c'est ça aussi. La CAN souffre déjà de sa position qui est revenue dans le calendrier au mois de janvier-février, qui emmerde tous les clubs européens chez qui une bonne partie des joueurs est.
Notamment la Ligue 1.
Voilà. Mais n'empêche, c'est une compétition continentale de premier plan qui mérite d'avoir sa fenêtre comme à l'Euro, comme à la Coupe du Monde, même si la dernière Coupe du Monde, c'était un peu particulier. Donc voilà, moi, je ne comprends pas que ce soit accepté et ou même que ce soit pas mal vu, parce que même pour Onana, il ne se met pas dans une situation très, très agréable.
Ça me fait penser à Lou Cissé aussi, qui est le sélectionneur au Sénégal, qui avait dit « Bon, moi j'avertis tout le monde, les mecs qui vont en Arabie Saoudite, ils ne seront pas à la CAN. » Puis il a vu Mané partir, puis il a vu Koulibaly partir, puis il a vu Mendy partir, et il est revenu sur ses propos et il a dit « Non, mais là, il y a beaucoup de gens qui y vont, et du coup, l'Arabie Saoudite, c'est un championnat qui devient très très fort, donc du coup, ils peuvent revenir. »
Mais très bon argumentaire.
Voilà, très très bon argumentaire. Mais bon, en tout cas, ce serait une compétition. Voilà.
Mais c'est une compétition toujours intéressante parce qu'elle est ouverte. Voilà.
Ouais, exactement. Et puis parce qu'on aime bien ça, c'est tout, Maxime.
Parce que voilà.
Il n'y a pas à se justifier. Maxime, dernier sujet.
Ouais.
Xavi Hernandez, ça te dit quelque chose?
Je crois voir qui c'est.
Tu crois voir qui c'est? Xavi, entraîneur du FC Barcelone, ça fait depuis novembre 2021 qu'il est là, donc ça fait 2 ans et demi.
Ouais.
Xavi, on s'était dit, c'est lui qui va tout résoudre. C'est-à-dire que le FC Barcelone, ça va pas bien quand même depuis un certain nombre d'années, Messi s'est barré, tout ça. Mais attention, Xavi, alors lui, attention, il va arriver, il va révolutionner le truc, le Barça va revenir à ses racines, à son origine, le jeu, etc. Ça va bien jouer, ça va tout gagner. 2 ans et demi plus tard, Maxime, force est de constater que ça ne fonctionne pas.
Bah, en tout cas, c'est compliqué, que le Barça est loin des années Xavi joueur, pour le coup. Alors, comme tu l'as dit, il est arrivé en novembre 2021. C'était le grand fantasme, Xavi, parce qu'à partir du moment où il a mis fin à sa carrière de joueur, ça devait être un grand entraîneur. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un grand entraîneur, mais ça fait penser un peu au fantasme comme Pirlo, où on se dit, par essence, parce que c'était des joueurs qu'on avait dans le ciboulot sur le terrain, ils vont devenir des grands entraîneurs. Or, bah, c'est pas aussi simple que ça. Et des fois, vous regardez la liste des grands entraîneurs. Bah, prenez un José Mourinho. José Mourinho n'a jamais été un footballeur. Il était traducteur au début. Pourtant, c'est devenu un grand entraîneur. Guardiola, n'en déplaise à ceux qui refont l'histoire, n'était pas un immense joueur. C'était un très, très bon milieu de terrain, très intelligent. Mais c'était pas non plus, il n'a pas eu la carrière de joueur de Xavi. Voilà. Après, c'est vrai qu'il arrive à un moment, tu l'as dit, il arrive à un moment où on se dit, voilà, il va faire repartir le Barça. Et là, j'ai envie d'être un peu sympa avec lui. Parce que, bah oui, il faut arrêter de vivre dans le fantasme du Barça de Guardiola, celui à qui il était comparé. Des générations comme a eu Guardiola, il n'y en a pas 100 000. Et surtout, il n'y en a pas 100 000 parce qu'à un moment, le Barça ne s'est plus donné les moyens d'avoir ces générations-là. Le Barça s'est engouffré dans la lutte à l'armement, en allant chercher des joueurs sur le marché, en surpayant tous les joueurs, etc., en se mettant dans une panade absolue. Et aujourd'hui, au fond, Xavi... Il paye aussi ça. Je veux dire, alors d'accord, Gundogan, compagnie, Cancelo, tout ça, ils sont là. Mais il faut, c'est difficile de lui demander, on va dire, de faire des miracles avec une équipe qui est très très respectable. Je suis pas en train de dire ça. Le vrai hic, c'est d'avoir été sorti en Ligue des Champions au premier tour l'année dernière. Ça, c'est vrai que ça fait tâche parce que ça n'arrivait jamais au Barça. Alors le groupe était relevé, mais tout de même, il a quand même gagné le championnat d'Espagne et la Supercoupe, ce qui n'est pas si mal, mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'impatience aussi. Et c'est fou parce que moi, j'ai l'impression, la Liga, je le suis, c'est pas le championnat que je suis avec l'œil le plus avisé, mais j'ai l'impression qu'un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, Xavi, c'est fini, etc. Et lui, il l'a relevé aussi. J'ai trouvé une déclat de lui au mi-décembre où il expliquait.
Ah, tu bosses, c'est bien.
Il y a un mois, on m'avait dit que j'allais être le Ferguson du Barça. Vous me l'avez dit, et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais devenir fou, maintenant je suis à la rue, et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, en gros, ce qu'il dit, c'est que le club a besoin de stabilité, etc. Voilà, mais il y a un peu de ça quand même aussi. C'est-à-dire que l'espèce de tourbillon qu'il y a autour de lui, de dire un jour on te prolonge, l'autre jour on va te virer, etc. Nanana, ça va pas. Alors, c'est sûr que là, tu as 7 points du Barça, du
Real, ça fait beaucoup.
Et Gérone,
ouais.
Ça la fout mal. Ouais. Ça, c'est sûr que ça la fout mal. Mais c'est vrai que c'est difficile dans un club comme ça, mais j'ai l'impression qu'il aurait besoin de ce que Guardiola n'a pas eu besoin.
Mais oui.
C'est du temps long.
Oui.
Guardiola, bah oui, lui, dès le début, il a fait all-in. Et c'est grâce à lui, parce qu'encore une fois, ce n'était pas gagné. Il dégage Ronaldinho, il voulait dégager Eto'o qui finalement restait. Et il n'était pas certain que cette génération allait tout casser, même si quand même, il faut dire qu'il y a des joueurs qui avaient gagné la Ligue des Champions deux ans avant. Donc voilà, il n'a pas exactement le même matériel. Moi, j'ai envie de lui donner du temps, mais c'est compliqué dans ces clubs-là.
Non, mais pour reprendre ce que tu as dit, moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis que ça part d'un malentendu. C'est-à-dire qu'on s'est dit que Xavi marcherait dans les pattes de Guardiola. Guardiola, quand il arrive, il a Eto'o, Henry, Messi, Busquets, Keita, Iniesta, Xavi, Puyol, Marquez, Alves, Yaya Touré, pour ne citer que. C'est des joueurs qu'il fait grandir.
Ouais.
C'est clair qu'il les fait grandir. Mais au moment où il arrive, Guardiola... Ces mecs-là, c'est quand même quelque chose. Xavi, quand il arrive, il y a Busquets, Piqué, Daniel Alves, mais sauf que c'est une fin de règne absolue.
Mais c'est bien le problème.
Ouais, c'est bien le problème. Non, mais c'est vrai, sauf que c'est une fin de cycle absolue. On se dit, parce que Guardiola, il a aussi bénéficié d'une génération absolument incroyable qui sort de la Masia. Quand Xavi arrive, on se dit, quoi qu'on commence à avoir des doutes sur Fatih qui se baisse beaucoup, mais on se dit, allez, Fatih, pourquoi pas? Bon, t'as Pedri, t'as Gavi, mais... ces mecs, il faut les entourer. Et il y a le principal problème du Barça aujourd'hui, c'est pas Xavi. Le principal problème du Barça, c'est pas Xavi. C'est que c'est un club qui n'a pas de direction. C'est un club qui ne sait pas sur quel pied danser, qui ne sait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il veut être ce qu'il était, mais il sait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est très compliqué pour Xavi. Tu l'as dit, il a été quand même champion d'Espagne, donc c'est pas si mal. Après... Ligue des Champions, ils se font sortir l'année dernière. Cette année, ils terminent premier d'un groupe avec Porto et Shakhtar, je crois, mais ils perdent deux fois, une fois contre le Shakhtar. Donc, c'est une équipe, en fait, qui a complètement perdu de son... Un, je pense, un petit peu de son pouvoir d'attraction et deux, de son pouvoir de nuisance. C'est-à-dire qu'avant, le Barça, c'était un no-brainer, etc. Ouais. Et que je pense que le Barça de Xavi ne rend pas... Enfin, de Xavi joueur, ne rend pas aujourd'hui service au Barça de Xavi entraîneur. Parce qu'il y a, ça brouille la réalité, en fait. Et il faut juste se rendre compte de ce qu'était le Barça quand Xavi est arrivé et le juger par rapport à cet étalon-là. Et par rapport à l'étalon Barça novembre 2021, ce que fait Xavi, c'est loin d'être dégueulasse. Je ne sais pas si tu es d'accord avec
moi. Oui, non, je suis d'accord.
Même si dans le jeu, effectivement, le mois de décembre, par exemple, il gagne sur des exploits individuels. Le problème de Xavi, c'est qu'il a... Il n'a pas encore mis une empreinte dans le jeu, etc. Mais est-ce que tu peux, avec des Rafinha, avec des mecs aussi qui restent 6 mois, ils ont eu Aubameyang à un moment, il est reparti. C'est très compliqué d'imprimer quelque chose.
Le vrai drame du Barça,
Et si je peux terminer, après je suis désolé, ça fait 2 fois que je te coupe. Et je pense qu'il faut être aussi aligné avec sa direction, avec son directeur sportif, avec la direction sportive. Déco. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit le cas.
Non, mais le vrai drame du Barça, c'est la Masia. C'est-à-dire qu'à un moment d'avoir abandonné. Enfin, il faut quand même rappeler ce qu'est le Barça de Guardiola. Il y a déjà une base qui a gagné la Ligue des Champions 2 ans avant avec Rijkaard. Il en dégage parce que voilà, il voit que c'est terminé. Déjà, c'est immensément courageux de dégager Ronaldinho comme à ce moment-là. Et il se retrouve avec ce qui va devenir peut-être le meilleur collectif de l'histoire et l'une des 2-3 meilleures individualités de l'histoire. Donc, oui. En fait, c'est l'équipe ultime. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez demandé de plus ? Imaginez.
Après, il y est pour quelque chose.
Ah oui,
aussi,
mais voilà. Et en plus, lui, il a des idées et c'est un entraîneur de génie. Donc, en gros, c'est quasiment toutes les étoiles qui s'alignent. Mais je pense que dans l'histoire des collectifs, est-ce que le Barça de Guardiola est la plus grande équipe de l'histoire de club ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans l'expression collective, on n'est pas loin de la perfection, voilà. Et donc, il a ça, il a ses idées, et Guardiola, Xavi, il y a ce malentendu-là de le dire, bah écoute, qu'est-ce que t'attends pour faire pareil ? Tu sais faire, tu l'as fait, donc pourquoi tu le fais pas ? Bah, peut-être parce que j'ai pas le même matos, et pourquoi j'ai pas le même matos ? Parce que tout l'argent a été dépensé, souvenez-vous quand même, je l'ai répété 50 fois ici, mais ça me rendait dingue, qu'à un moment, la masse salariale du Barça était, je crois, 115% du budget annuel. Donc déjà, là, il y a un petit problème.
Et puis les recrutements qu'ils ont fait.
Les recrutements, c'est plus les... Et puis voilà, et avant, le Barça recrutait évidemment, mais quand même la force vive, ça venait du centre de formation. Et là, en l'occurrence, qu'on a eu, c'est il y a 10 nouveaux Messi. Il y a un nouveau Messi tous les 6 mois, sauf qu'il manque le vrai. Donc là, c'est problématique. Et comme tu l'as dit, tout à l'heure, tu parlais d'Alves, etc. Busquets, ça finit par partir parce qu'il était vieillissant et c'est normal. Mais il y a eu un moment, Piqué aussi, tout ça. C'était formidable de les voir rester, mais lui, il a récupéré ces joueurs-là qui étaient ses copains, ses coéquipiers, mais qui, à un moment, n'étaient plus les mêmes. Enfin, imaginez quand même 2009, 2022, 2023, c'est quand même pas hier. Donc,
Mais je pense qu'on a fait une connerie quand même, qu'on a fait une bêtise, et nous les premiers, parce que nous, on était les premiers à dire. Parce que ça partait d'un fantasme,
oui, c'est un fantasme.
Ça partait d'une envie folle. Sauf qu'entre le fantasme et la réalité, bah, t'as ce qu'il y a sur le terrain quand même. Et Xavi, il peut être le meilleur entraîneur du monde, il n'est pas magicien. Ouais. Il n'est pas magicien, donc on est en partie responsable de ça. Mais ouais. Parce que Xavi, qui incarne mieux l'esprit Barça que Xavi ? Qui ?
Bah oui.
Personne. Donc on s'est dit, bah, il va arriver, ça va suffire. Bah non, ça ne suffit pas. Et en plus, Laporta, je pense qu'il y a plein de problèmes à tous les étages. Et que Xavi, il a beau se démener, il a encore une fois une part de responsabilité aussi dans les résultats. Ce que montre son équipe, c'est pas au-delà d'être digne du Barça, de l'idée qu'on fait du Barça, mais juste même d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le Barça ne peut pas proposer ce jeu-là et être aussi loin des premières places en Ligue des Champions, en Liga.
Ouais.
Voilà. Mais au départ, je pense qu'il y a, une réalité qui, enfin, un jugement qui n'est pas bon.
Non, mais ce qui est dur aussi, et ça a été valable, alors là, je le disais pour Xavi, mais c'était valable pour plein d'entraîneurs. Souvenez-vous de Zidane au Real, avec la presse, à chaque mois de septembre, il y avait un mois de septembre, il avait enchaîné, je crois, 3 matchs nuls.
Alors que lui gagnait toute
les mecs étaient à la porte.
Ouais.
Non, mais il faut arrêter avec ça. L'excitation des médias ibériques là-dessus, c'est complètement dingue. Et je pense que les deux, en plus, ils sont dans des zones où le média principal, Sport et Marca, sont des médias
de club.
Donc ça doit être l'enfer. Et là, c'est ce qui, en gros, c'est de la déclat que je disais tout à l'heure. C'est ça, c'est qu'il demande. Je demande de la stabilité. Il le répète plusieurs fois. Il faut de la stabilité, rien de plus. Voilà. C'est difficile à entendre, mais au moins, il a pour lui de qualifier son... Alors, de qualifier son club, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est l'essentiel. De qualifier son club à chaque fois en Ligue des Champions et de ramener l'argent. Oui, encore heureux, t'as raison. Mais n'empêche que là, ce serait dramatique. Parce que là, en plus, financièrement, ce serait catastrophique. Et il faut le dire quand même. Il se retrouve toujours avec une situation où le Barça, lors des mercato, ne sait pas comment recruter. Il faut inscrire le joueur au dernier moment.
Ouais,
évidemment, c'est pas une excuse. C'est pas qu'une excuse. N'empêche, ça doit pas aider quand vous êtes entraîneur de dire on voudrait lui, bah oui, mais on peut pas. Il faut vendre d'abord. Et lui, on l'a recruté, mais on peut pas signer sa prolongation, donc il peut pas jouer. Enfin, c'est un bordel absolu, comme le Barça ne l'a jamais été avant la fin des années 2010.
Et après, il faut quand même dire aussi que si Xavi n'avait pas été Xavi, il n'aurait jamais été champion d'Espagne, parce que je pense qu'il se faisait virer au bout de ses premiers mois. C'était une catastrophe. Ouais. Il battait des records de médiocrité. Et ça doit aussi être une boussole pour le FC Barcelone, de se dire on lui a laissé sa chance. Finalement, il a fait quand même une saison pas dégueulasse l'année dernière. Il se fait sortir de la Ligue des Champions. Il est champion d'Espagne. Donc voilà, calmons-nous.
Et dimanche, il y a la Super Coupe d'Espagne.
Ah, le petit coup de gueule des Maximes.
Entre le Real et le Barça. Ouf, il y aura un classico. Ouf, la Liga pour vendre sa cam en Arabie Saoudite.
Des demi-finales de Super Coupe d'Espagne, je crois que c'est le principe le plus stupide que j'ai vu depuis que je suis le football. Demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Comme s'il y avait une demi-finale de Trophée des Champions.
Mais on ne va pas vous la faire, à vous. c'est l'assurance d'avoir et le Real et le Barça à coup sûr, ouais, puisqu'il y a ça qui se vend au cas où. Voilà. Pour en revenir tout à l'heure avec la Première Ligue, là, je pense que la Première Ligue ne ferait jamais ça. Ils ont leur Charity Shield et qui, quel que soit le club, la compétition dépasse l'affiche. Voilà.
Il fallait quand même que tu en mettes un petit avant de, un petit tacle avant de.
Ouais, parce qu'en fait, non, mais c'est marrant parce qu'on a vécu dans cette ère des de classicos, souviens-toi, le printemps 2011.
Mais c'était fantastique. C'était génial.
On en a vu combien 4 ou.
Ouais, on avait 4, des demi-finales, des demi-finales de Ligue des Champions.
Peut-être une finale de Coupe et plus un match de championnat. Et là, c'était dingo, mais c'était presque. Enfin, quand j'y repense, maintenant, ça me paraît délirant comme période. Là, maintenant, ils essayent de faire l'événement avec ça, mais sauf que.
Sauf que ça a mal vieilli aussi. Le...
Ouais, tout le monde.
Real vieillit un peu mieux que le Barça, mais ça. Et tout le monde
s'en tape. Et moi, encore une fois, je le dis, pas un immense fan de la Liga, mais c'était un rendez-vous obligatoire, voilà, comme les matchs contre l'Atlético, quand l'Atlético est redevenu un club qui compte. Voilà. Dimanche, je suis pas certain de le regarder, ou sinon d'un œil très distrait.
Bon, t'étais focus finalement, Maxime.
Bah oui, tu vois.
Ouais, calme-toi. Bon, calme-toi. C'est la machine. Est-ce que tu peux me citer les 24 pays qui vont participer à la CAN?
Non.
Ouais, t'es pas focus, Maxime. T'es pas focus. T'as mal préparé ton truc, non? La petite déclat de Xavi, j'ai bien aimé.
Ah, tu vois.
T'es allé la chercher, t'as un peu bossé. Voilà. Ah, et c'est quand on s'y attend le moins que Maxime sort du bois.
Petite Alex Ferguson. Et j'ai dû la vérifier deux fois. J'étais étonné qu'il dise ça et j'étais étonné justement qu'on lui dise. Tu
vérifies deux fois tes sources, toi?
Ah, toujours. Moi, je suis un grand.
Un grand journaliste.
Alors, non. Pas un grand journaliste, mais un grand, un grand anxieux.
Ouais.
Et j'aime bien être sûr de ce que...
Tu dis.
Ouais, plutôt que ce que j'écris. Parce que ce que je dis, là, je ne suis pas sûr. Mais si, j'aime bien quand même. C'est mieux. Et ça me rend dingue de faire... Tu vois, quand j'ai fait l'erreur sur Jean Boiteux, tu vois, je me rappelle encore, au début de cette émission, parler de champion du monde, alors que c'est champion olympique. 3 semaines, j'ai très mal dormi.
Alors que je pense que... Je ne veux pas sous-estimer nos auditeurs. Mais je pense que parmi nos auditeurs... Je sais pas. Je sais pas si les gens s'en sont rendus compte.
Jean Boiteux.
Mais c'est ça
qui fait.
Non, si.
Ça va mieux.
Je passe une IRM la semaine prochaine.
Ah, quand même.
Ouais.
T'as encore mal.
Ouais. Ah, je peux pas reprendre le sport. Donc, je peux dire fête sans sport.
Ah oui.
Ouais,
c'est... Moi, j'ai pu jouer au foot plusieurs fois, notamment avec des potes que j'ai plus depuis 20 ans.
Est-ce qu'ils t'ont reconnu?
Ouais. Moi aussi, tout s'est bien passé, ça a bien joué, c'était très sympa et ça faisait du bien de jouer au foot.
Très bien. Est-ce qu'on termine sur cette phrase? Ça faisait du bien de jouer au foot.
Ça fait toujours bien. Faites du sport.
Faites du sport. Voilà, faites du sport.
C'est toujours bien. C'est la bonne fatigue.
On remercie Simon à la production, ça rime. On remercie Quentin au visuel, ça rime pas. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Maxime, ou pas?
C'est ça, bah oui.
Ouais.
Normalement, ça sera bon.
Okay, normalement, ça sera bon. On croise les doigts. Et bah, rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Salut.